mouvements. Des mouvements d'organisme. Ça veut dire que le squelette et les muscles, tout ça, c'est dans les fonctions de relation. Parce que ça permet à l'organisme de répondre à cette agression par une autre espèce, c'est-à-dire par un élément de l'environnement. OK ? Les relations intra-spécifiques. Attention, il y a un piège. Est-ce que vous connaissez comme relation intra-spécifique qui serait dans les fonctions de relation ? Eh bien non ! Parce que ça, c'est dans les fonctions de reproduction. Ça, c'est le piège. Donc, vous écrivez en rouge et vous l'entourez 14 fois. La reproduction ne fait pas partie des fonctions de relation. Et c'est pas parce qu'on dit relation sexuelle que c'est dans les fonctions de relation. Donc, la reproduction ne fait pas partie des fonctions de relation. Si on veut, c'est la seule relation intraspécifique qui n'est pas dans les fonctions de relation. Et ce, c'est dans les fonctions de reproduction. Alors, vous dites ça comme relation intraspécifique. Ce qu'on est en train de faire là, c'est des relations intraspécifiques. Ben voilà, le langage, la communication, qu'elle soit verbale ou non, parce que évidemment le langage c'est quasiment uniquement humain. Par contre, les vaches, elles ne parlent pas, mais par contre, elles ont énormément de communication qui se fait par les odeurs, qui se fait par la vue. C'est surtout par les odeurs. Et donc, toutes les communications entre individus de la même espèce, tout échange d'informations, on est dans des fonctions de relation. Donc, ça veut dire que pour tout ça, il faut bien avoir des systèmes de perception sensorielle. Des yeux, un nez pour percevoir des odeurs, des oreilles ou des trucs équivalents. Donc, tous les organes des sens, ils sont impliqués dans les fonctions de relation. Donc, voilà, si on prend un petit peu de hauteur, les fonctions de relation, du coup, c'est tout ce qui permet le mouvement, tout ce qui permet de prélever des informations et de les intégrer. Et on verra ce que ça veut dire un petit peu plus tard, intégrer des informations. Donc, le système nerveux, il est en plein dans les fonctions de relation. Donc système nerveux, système musculaire, le squelette, tout ça, c'est dans les fonctions de relation. Bon, et avant de passer à la suite, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait arbitrairement arrêté des cases reproduction, relation, nutrition, mais en réalité, si on creuse un petit peu, toutes les fonctions, elles sont un peu interconnectées, parce que c'est bien joli, mais comment est-ce qu'on fait de la reproduction si la fonction nutrition ne marche pas? Donc on a besoin d'avoir une nutrition et le sang qui transporte le glucose pour avoir des cellules reproductrices, des spermatozoïdes, des ovocytes, qui se développent correctement. Donc la fonction de nutrition dépend, non, la fonction de reproduction dépend de la fonction de nutrition. La fonction tout à l'heure, je vous ai dit attention, les relations sexuelles, c'est reproduction, c'est pas relation. Sauf que avant la reproduction à proprement parler, il y a bien une reconnaissance des individus avec une communication. Et selon l'espèce qu'on trouve, ça peut être une communication verbale ou pas. Bien entendu, il peut y avoir aussi des événements de simulation de reproduction, c'est-à-dire des événements dont la finalité n'est pas reproductive, mais qui sont quand même des rapports sexuels. Alors ça, chez les humains, c'est très courant, mais il y a plein d'espèces animales, notamment chez les primates, où il y a des relations sexuelles entre individus du même sexe, ou entre individus pubères et prépubères, ou entre individus de sexe opposé, mais qui n'arrivent pas à la reproduction parce qu'ils font ça juste pour s'amuser, parce que c'est sympa. Là, on n'est pas dans la reproduction, on est dans les relations. Donc finalement, si on creuse un petit peu, on s'aperçoit que ces cases, elles sont arbitraires. Mais c'est bien pratique pour décrire les choses. Donc il faut les connaître, il faut les utiliser, en gardant toujours en tête que c'est un truc qu'on a arbitrairement fixé et que du coup, il faut savoir s'en détacher et puis discuter ces notions-là avec toute l'intelligence qui vous a été donnée par Dame Nature. Alors, on va rentrer un peu plus dans le sujet et se focaliser sur un exemple. Alors, l'exemple imposé par le programme, c'est vraiment qui l'a choisi, c'est la vache. Alors, pourquoi ce plan de la vache d'après vous? Pourquoi la vache et pas l'écureuil nain?
Oui. Parce qu'elle est un peu proche de l'homme. Enfin...
Alors, d'abord, elle est proche de l'homme. Bien l'écureuil nain aussi. Mais
plus proche, on le voit plus souvent. Et...
Alors, là, il y a plusieurs arguments. Elle est proche de l'homme déjà, phylogénétiquement. Parce que c'est un mammifère. Donc, la vache est un mammifère, l'homme est un mammifère. Du coup, ça veut dire que c'est un peu moins compliqué pour vous, pour les étudiants, parce que on sait déjà pas mal de choses sur les mammifères, Et donc, ça permet d'aller un petit peu plus vite et de développer des choses qui font aussi pas mal appel à l'intuition. Alors, le fait qu'elle soit dans les champs, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a d'abord, elle est proche, c'est-à-dire qu'elle n'est pas loin. On peut assez facilement voir des vaches à peu près n'importe où sur le territoire français, donc c'est pratique. Alors, pendant notre sortie, on n'ira pas voir de vaches, on n'a pas le temps, mais on aurait pu. Et puis, on est dans une grande région d'élevage bovin, donc si vous voulez voir des vaches, c'est pas bien compliqué. Donc, c'est assez pratique d'aller vérifier sur le terrain ce qu'on n'a pas en cours, notamment la mastication, la préférence alimentaire, etc. etc. Alors, le fait qu'elles soient présentes dans des champs, je dirais même des pâtures, ce sont des animaux qui ne sont jamais en liberté. Hein. C'est très rare, en fait. Hein. Ça existe sur le territoire français des bovins en liberté, il y en a en Camargue, mais la plupart du temps, ces bovins, ils sont élevés et parqués dans des endroits particuliers, voilà, des pâtures. Et du coup, c'est un animal qui a un statut économiquement intéressant, parce que c'est un animal qui est élevé. Et c'est un animal qui est élevé pour la viande, qui est élevé pour le lait, qui est élevé pour le cuir. Donc c'est un animal qui a une importance économique. C'est un animal qui a une grande importance économique. Et donc ça me mène à mon troisième point. Je vous rappelle quand même que vous êtes ici pour entrer dans des écoles d'ingénieurs agronomes et des écoles vétérinaires, entre autres. Et donc, bien entendu, un étudiant vétérinaire qui sera peut-être amené à travailler avec des éleveurs de bovins, ou un étudiant agronome, enfin un ingénieur agronome qui va être amené à travailler également avec des agriculteurs, ben, il va connaître parfaitement cet animal essentiel de l'économie agricole française qui est la vache. Alors, du coup, ça aurait pu être la chèvre, ça aurait pu être la poule. Disons que voilà, il y a un intérêt économique très important et agronomique très important. Du coup, régulièrement, pendant ce cours, on essaiera de regarder le côté un peu plus pratique on va pas aller jusqu'à voir comment est-ce qu'on gère une exploitation bovine, hein, c'est pas ça l'enjeu. Mais régulièrement, on essaiera de donner un petit peu des petites précisions sur les races de vaches, sur la production laitière, sur la production de viande, sur quelques problématiques au jour le jour de l'éleveur. C'est-à-dire qu'une vache, c'est pas juste une usine où on appuie sur un bouton, ça fait du lait, quoi. Un petit peu plus compliqué que ça, quand même. Donc voilà, j'essaie de vous apporter quelques notions là-dessus, sachant que si certains d'entre vous ont des amis ou des parents qui sont agriculteurs ou qui connaissent très très bien le sujet, c'est possible que vous connaissiez beaucoup mieux que moi. Et donc, si vous avez des histoires personnelles à raconter sur le vélage d'une vache, n'hésitez surtout pas à apporter votre pierre à l'édifice. Bon, voilà. Alors, bon, comme on l'a fait pour la souris hier, on a dit que la souris, ça s'appelait mus musculus en latin, pas la vache, elle s'appelle bos taurus. Bos taurus. Alors, bos, en latin, ça veut dire bœuf. Et du coup, c'est le nom de genre qui s'écrit, je vous rappelle, avec une majuscule. Taurus, ça a donné le mot taureau en français. Donc voilà, c'est relativement transparent comme étymologie. Bos, c'est un mot qui a donné en français le mot bœuf, le mot bovin et bovidé. Donc voilà, Alors, quand on parle de vache, dans le programme, on étudie en particulier la vache, c'est-à-dire la femelle, sauf que finalement, ce qui nous intéresse, c'est l'espèce en général, sachant que la femelle est économiquement beaucoup plus intéressante. D'abord parce qu'il y a beaucoup plus de femelles, mais elle est économiquement intéressante parce que surtout, elle produit du lait, ce qui n'est pas le cas du mâle. Donc, parfois, enfin voilà, moi je vais utiliser le terme vache, mais ça désigne le mâle et la femelle indifféremment. Et bien sûr, quand on parlera de pénis, ce sera plutôt le mâle, quand on parlera de lait, ce sera plutôt la femelle. Donc, sur votre bon sens pour comprendre ça. Voilà. Alors, on va rentrer dans le sujet avec, pour commencer, les fonctions nutritionnelles. Alors, avant de commencer à définir tout un truc, voici, on va commencer par la digestion. La digestion permet la fonction nutritionnelle. La nutrition permet la construction de nutriments. Alors, j'ai un super schéma de bâche. J'espère que vous allez saluer. Bon, elle ressemble pas à grand-chose, ma bâche. Hein. Les pâtes avant, elles ont un peu une sale gueule, mais qu'est-ce que j'ai plus. Donc, on va juste utiliser ce premier schéma pour construire, pour construire notre plan et pour voir par quel bout on va entamer notre discours. Parce que finalement, l'intérêt de la vache, vous allez voir, c'est aussi qu'elle a un système de nutrition qui est quand même sacrément complexe, puisqu'elle a quand même 4 estomacs. Nous, on a un seul, une figure. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est.
Alors, pour être sûr d'avoir le même plan, je vais monter quelque part. Voilà, c'est ça.
Alors, donc, vous allez compléter le schéma, vous voyez, j'ai un petit A, petit B, petit C, petit D, c'est mon plan. Donc, on va commencer par faire rentrer l'air dans la panse, puis ensuite, on va la éliminer et on va avoir des bactéries utiles. Puis, ça va passer dans les autres estomacs. Et enfin, les nutriments vont être absorbés. Alors, on va compléter les petits A, petits B, petits C, petits D, qui sont en fait les quatre parties, les quatre sous-parties de ce plan. Alors, le petit A, comment vous appelez ça? Pour moi, ce qu'on appelle le fait de manger, de prélever de la nourriture et de l'ingérer. Alors, ça s'appelle la prise alimentaire. La prise alimentaire. Mais alors, il n'y a pas que la prise alimentaire dans cette première partie. On va également voir un truc complètement spécifique de la vache et apparenté, c'est-à-dire le dominant, qui s'appelle la rumination. Prise alimentaire et rumination. Alors, en même temps, on va compléter quelques éléments d'anatomie sur cette vache. Alors, ce gros machin là, que je vais remplir en rouge, voilà, c'est le plus gros estomac de la vache, et ça s'appelle la panse. P-A-N-S-E. Vous voyez ce nuque en rouge comme ça, là-bas?
Oui.
Voilà, c'est le plus gros estomac de la vache, ça s'appelle la panse. Celui-là, il s'appelle le bonnet. Celui-là, il s'appelle le feuillet. Et le dernier, il s'appelle la caillette. Donc, je les ai mis dans l'ordre, hein. Les aliments, vous voyez, sur les flèches qui sont dessinées sur votre folie, ils arrivent d'abord dans la panse, puis ensuite ils vont passer dans le bonnet, puis dans le feuillet, puis dans la caillette, et ensuite, après ça vous connaissez, c'est l'intestin grêle, puis le côlon, etc., etc. Donc là, vous avez mis en pointillé, parce que c'est pas la peine de détailler tout ça, il fait plusieurs mètres de long, hein, l'intestin de la vache. Il y a vu comme c'est complexe chez la souris, donc on n'a pas représenté des pourvoyages. Alors, il va se passer un truc particulier dans la panse. La panse, on va le voir, c'est un organe qui contient beaucoup de bactéries. Et il va y avoir une digestion qui est dite digestion microbienne. Donc c'est mon petit B, on va voir ce qui se passe en termes de métabolisme bactérien, notamment de métabolisme microbien dans cette panse. La digestion microbienne. Donc ça, c'est un truc qui est complètement spécifique de la vache, des ruminants, et qui n'existe pas chez l'humain. Là, il n'y a pas de digestion microbienne chez l'humain. Il y en a chez la souris, mais pas au même endroit. Donc, on en reparlera justement un petit peu quand on fera ça. Le petit C, ça, c'est un truc complètement classique qu'on observe chez tous les mammifères, chez la très grande majorité des animaux. C'est une digestion chimique classique, comme dans votre estomac. Digestion chimique. Et enfin, dans le D, qu'est-ce que c'est d'après vous? Pardon? Par l'intestin? Non. Ça, c'est un intestin. Hein. Alors, il y a une flèche qui sort de l'intestin pour dire que, à un moment, il faut bien absorber les nutriments. Donc, c'est l'absorption des nutriments. Hein, le D, pour voir de quelle façon ça se fait. Absorption des nutriments. J'avais le plan, donc tout va bien. Je vous donne jamais de pause hein, le vendredi matin, parce que c'est bon. C'est pas comme pause. Non. C'est bon, c'est bon. Alors, c'est parti. Bon, déjà, on appelle aliments les substances souvent solides, ingérées par l'organisme. On appelle aliments les substances souvent solides et qui sont absorbées par l'organisme. Donc, aliments, c'est pas nutriments, hein, c'est pas pareil, c'est des choses différentes. Donc, les aliments, c'est des trucs solides absorbés par l'organisme, ingérés, avalés, mastiqués, ce qui rentre dans la bouche, ce qui rentre dans l'estomac. Et les nutriments, ce sont les petites molécules et les ions qui sont absorbées par le tube digestif et transportées par les fluides circulants. Les nutriments, ce sont des petites molécules organiques, des ions, mais également l'eau. Ils sont absorbés par le tube digestif et transportés par les fluides circulants. Donc les nutriments, c'est des molécules. Les aliments, c'est pas des molécules, c'est constitué de molécules, mais c'est plein de choses différentes, c'est plein de substances différentes. Donc les nutriments, petites molécules organiques, ions, éventuellement aussi l'eau, absorbés par le tube digestif et transportés par les fluides circulants. C'est quoi les fluides circulants? Le plus important, c'est le sang. Bon, il y en a un deuxième qui est la lymphe. Vous en avez entendu parler en immuno, je pense, de la lymphe. Et la lymphe, on verra qu'elle a un rôle dans le transport de certains nutriments, notamment les lipides. On en parlera plus tard. Donc, transport par les fluides circulants, donc c'est les nutriments qui sont transportés par les fluides circulants et pas les aliments. Donc, attention de bien faire cette différence, enfin, de bien faire cette différence entre nutriments et aliments et pas les nutriments. Alors, pour la vache, c'est quoi le principal aliment? C'est l'herbe. La vache, elle mange de l'herbe. Ça, tout le monde le sait. Alors, ça ne mange pas que de l'herbe. Mais c'est le principal aliment, notamment lorsqu'elle est dans la nature. Alors, quand elle est élevée, la vache, on lui donne parfois du fourrage également. Ce qu'on appelle le fourrage, c'est un aliment enrichi en amidon, avec par exemple des grains de maïs, éventuellement, bon, en tout cas, à certaines époques, des farines animales, et on n'a plus le droit maintenant, heureusement. Mais voilà, fondamentalement, le principal aliment de la vache, c'est l'herbe. Et bah, du coup, c'est quoi ces nutriments, la vache? Je vais vous donner un exemple de nutriment qui va être transporté par le sang et qui est issu de cette question. Alors, c'est vrai pour la vache, comme pour nous. Hein. Le glucose. Le glucose, le glucose c'est un des meilleurs exemples de nutriments. Vous avez aussi l'ion K+, l'ion potassium, c'est aussi un nutriment. Et vous avez aussi les acides aminés, c'est des nutriments. Bon. Et là où ça va un petit peu varier, c'est que bah, selon les aliments qu'on consomme, on n'aura pas exactement la même quantité de chaque nutriment. Nous, par exemple, on va voir qu'on aura beaucoup plus de glucose que la vache. Et on aura aussi beaucoup plus d'acides aminés. Chez la vache, on a des nutriments en plus, d'autres en moins, parce qu'il n'y a pas exactement les mêmes aliments qui arrivent dans l'eau. Alors, on va commencer par le début avec prise alimentaire et trituration et rumination. Prise alimentaire et rumination. Alors, bon, la bouche, c'est l'entrée du tube digestif, ça vous le savez. Alors, dans la bouche, en plus d'être l'entrée du tube digestif, on a un organe très important qui s'appelle la langue, qui est un muscle et qui est revêtu par un épithélium. La langue, c'est un muscle, c'est dans la bouche, qui est revêtu par un épithélium. Un épithélium, c'est un tissu de revêtement qui est en contact avec l'extérieur. Un épithélium, c'est un tissu, constitué de plusieurs cellules, un tissu de revêtement, et qui permet de faire la limite entre le milieu interne et le milieu externe. Donc votre peau, c'est un épithélium. L'intérieur de votre bouche et ce qui est autour de votre langue, c'est un épithélium. Donc la langue, elle est recouverte d'un épithélium, comme beaucoup d'organes, mais un épithélium particulier qui comprend de nombreux récepteurs sensoriels. Donc un épithélium qui comprend de nombreux récepteurs sensoriels qui permet à la vache de goûter sa nourriture, c'est-à-dire d'avoir des informations chimiques sur son environnement, et savoir aussi elle mange ou elle ne mange pas ce qu'elle mange. C'est un épithélium riche en récepteurs sensoriels. Et donc ça lui permet de choisir sa nourriture et de manger certains nutriments et pas d'autres. Vous avez peut-être déjà vu que dans une pâture, Là, vous avez peut-être déjà vu que dans une peinture, il y a certaines espèces qui sont consommées, d'autres non. Et parfois, il y a certaines espèces qui sont rejetées par la vache. Et du coup, vous avez en plein milieu d'une peinture complètement ratibonnée parce que la vache a tout bouffé. Il y a un truc florissant là, c'est juste le truc que la vache n'aime pas. Soit parce que c'est toxique, soit parce qu'elle n'aime pas, parce qu'elle aussi elle a des préférences. Hein. Et donc, c'est notamment grâce à sa langue qu'elle a goûté le truc, elle trouve que c'est dégueulasse, elle ne bouffe plus. Donc, c'est grâce aux récepteurs sensoriels qu'il y a dans la langue. Mais également grâce à la muqueuse olfactive, puisque en même temps qu'elle goûte sa nourriture, elle la sent de façon totalement inconsciente et systématique. Hein. C'est l'association de cette perception chimique par la langue et par la muqueuse olfactive dans le nez qui permet de choisir si elle consomme ou non cette nourriture. Alors ça, c'est vrai pour la vache, mais c'est vrai pour la quasi-totalité des animaux. Hein. Vous aussi, vous utilisez systématiquement et parfois de façon inconsciente votre nez et votre bouche, et c'est ça qui fait que vous aimez ou pas les brocolis, vous aimez ou pas le steak haché, voilà quoi. Alors, bon, la vache, elle appartient à un groupe de vertébrés particuliers qui dispose d'un organe extraordinaire qu'on appelle la mâchoire. Et ce groupe de vertébrés, ça s'appelle les gnathostomes. La vache appartient à un groupe de vertébrés qui s'appelle les gnathostomes. Gnato, ça veut dire la mâchoire, comme prognate, la mâchoire qui est un peu devant. Donc gnato, la mâchoire, stome, on a déjà vu ce terme. Stome, stoma, stomato. La bouche, donc ça veut dire bouche avec mâchoire. Contrairement aux vertébrés qui ont une bouche sans mâchoire. Ça existe ça? C'est rare, mais ça existe. Vous connaissez les lamproies? C'est hyper laid. On dirait une espèce d'anguille avec une bouche avec plein de dents. C'est pas de mâchoire, c'est des dents en forme de cercle. Et on dirait un truc qui vient d'un mauvais film noir. Et voilà. Vous tapez l'amproie sur Google, vous verrez qu'il existe des poissons qui n'ont pas de mâchoire. Et qui ont une bouche avec plein de dents, mais qui sont sans mâchoire, qui ne ferment pas. Bon, et ça se mange, c'est très bon. C'est une spécialité de Bordeaux, ils font ça au Varroux, mais c'est extraordinaire. Donc la vache, bien sûr, c'est un gnathostome parce qu'elle, elle a une mâchoire comme la plupart des vertébrés. Et cette mâchoire, elle constitue du coup une pince qui permet d'ouvrir et fermer l'orifice buccal. Et notamment, on va voir que c'est grâce à cette pince, grâce à cette mâchoire, qu'elle arrache l'herbe dans son environnement. On ne va peut-être pas tout de suite faire le dessin de la mâchoire de la vache. On va en prendre tout à l'heure. Bon, la vache, comme beaucoup de vertébrés, pas tous, mais beaucoup, elle possède des dents. Donc on verra juste après la structure des dents de la vache. Alors, pour éviter les confusions, on appelle denture l'ensemble des dents. L'ensemble des dents, ça s'appelle la denture. Et attention, souvent, quand on pense à l'ensemble des dents, on appelle ça la dentition. En fait, c'est faux. La dentition, ça désigne le processus de développement de la denture. Enfin, la dentition, c'est la fabrication des dents au cours du développement. Donc, si votre dentiste il parle de dentition, vous mettez un coup de bout, il dit non, denture. Voilà. Normalement, ils savent ça, les dentistes, mais les travailleurs aussi, ça m'énerve. C'est un peu plus pour les limites des fois. L'ensemble des dents, on appelle ça la denture. Et la vache, elle a une denture qui est particulière. En fait, chaque animal a une denture particulière. Chez les vertébrés, il y a une diversité de dentures qui est absolument dingue. Alors, quelle est la denture de la vache? On va l'écrire. Et puis, on va voir, on va l'écrire de façon conventionnelle et on va voir ce que ça veut dire. Alors, la formule dentaire. La formule dentaire de la vache. Alors, I incisive, C4-9e prémolaire, M molaire. Ça, c'est pas compliqué. C'est bon, c'est. Ok ? C'est les quatre types de dents qui existent chez tous les vertébrés, donc chez tous les mammifères. Incisive, canine, prémolaire, molaire. Et dans l'ordre, depuis le côté antérieur vers le côté postérieur. Antérieur, c'est plus devant, hein, c'est les incisives. Et puis, on va latéralement, c'est derrière. Plus on va vers les molaires. Ok. Alors, il y a une mâchoire supérieure et une mâchoire inférieure. Du coup, c'est ça qui exprime la fraction. Le numérateur, c'est la mâchoire supérieure. Le dénominateur, c'est la mâchoire inférieure. Donc, ça veut dire que Et, alors attendez, oui, excusez-moi, c'est comme pour la souris, hein, c'est par demi-mâchoire. Donc, il y a ça à droite et il y a ça à gauche également. Donc forcément, une forme de bilatérine à la vache aussi, il y a une très bonne symétrie qui n'est pas parfaite, mais une très bonne symétrie entre la droite et la gauche. Donc en tout, la vache, elle a ce nombre de dents fois 2. Donc ça veut dire que sur la mâchoire supérieure droite, on a 0 incisives, 0 canines, 3 prémolaires, 3 molaires. Sur la mâchoire inférieure droite, on a 3 incisives, 1 canine, 3 molaires et 3 prémolaires. Ok ? C'est clair pour la façon de dire ce truc-là ? Alors, bon, après vous en dites tout, on va quand même le voir tout de bon cette mâchoire. Bon, elle a un peu plus cher, parce que j'ai tourné par terre il y a 2 ans. Alors, vous voyez tout à peu près ? On viendra la voir en fin de séance pour voir ça en vrai. Alors, il faut regarder qu'une demi-mâchoire, donc on va la couper en deux par la pensée. 1, 2, 3, 4. Donc pareil de l'autre côté. Donc on a 4 dents qui sont devant. Alors en fait, c'est 3 incisives et une canine. Ça ressemble beaucoup, la canine ressemble énormément à l'incisive chez la vache. Hein. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une canine et pas une incisive ? C'est une question de développement embryonnaire, c'est une question de structure de la racine de la dent. Donc on s'en fiche pas mal. Si jamais vous dites qu'il y a 4 incisives, on ne va pas vous pendre. Ni vous voter des cailloux. En tout cas, il y a 4 dents qui sont tout devant. Et ensuite, on a une partie qui n'a pas du tout de dents, qui est ici. Alors cette partie qui n'a pas du tout de dents, on appelle ça un diastème ou une barre.
Le seul, il est là. Il est entre la canine et les prémolaires.
Et ensuite, on a 3 prémolaires. Voilà, vous voyez ici, là, 1, 2, 3. Et puis, 3 molaires. Alors, pareil, il y a une différence en termes de structure entre les molaires et les prémolaires. Les prémolaires, elles sont plus petites et elles ont une racine qui est un petit peu moins grosse que celle des molaires. C'est comme ça qu'on arrive à distinguer molaires de prémolaires. Chez certaines espèces, elles se ressemblent énormément et donc c'est pas forcément trop facile de voir. Donc, il faut que vous sachiez, j'allais vous demander de reconnaître une molaire, une prémolaire, une canine, une incisive. Par contre, analyser la structure d'une mâchoire de vache ou d'un animal proche, ça fait partie des choses qu'on pourrait vous demander de faire.
Alors, ça c'est fait. Je vais couvrir la tête.
Alors, comment est-ce qu'elle fait pour manger son herbe, sachant qu'elle n'a pas de dents antérieures sur la mâchoire supérieure. 0 incisive, 0 canine.
C'est pas un mensonge, hein, il n'y en a pas. Comment ça marche?
Et ça n'a pas d'avoir des dents en bas et en haut.
C'est pas juste pour arracher et après elle le mange avec l'arrière?
Et comment elle fait pour arracher si elle a des dents plus en bas? On est loin là. C'est ça en fait. Comment ça marche? En fait, moi ma lèvre elle est toute douce et soyeuse. Et la vache, elle a la corne sur sa lèvre supérieure. Et du coup, elle mord son herbe entre ses dents inférieures et sa lèvre. Et la lèvre, comme elle est recouverte, elle est très épaisse, elle contient la même matière que ça, c'est-à-dire de la corne. Et donc, finalement, la lèvre supérieure joue le rôle de dent. Donc, au lieu de mordre entre les dents supérieures et inférieures, comme vous, quand vous coupez une pomme, ben elle mord entre les dents inférieures et la lèvre supérieure qui est rigide. Et donc, voilà, ça lui permet de manger. Bon, ça, franchement, c'est un détail, mais la prochaine fois que vous verrez une vache manger, ben vous verrez qu'en fait, alors, là, vous voyez pas, j'ai une masque, mais voilà, elle mord entre lèvre et les dents. Donc, c'est assez ridicule parce qu'on a l'impression qu'elle a la bouche tordue et qu'elle n'arrive pas à manger comme il faut, mais c'est juste qu'elle n'a pas de dents en haut. Quoi. Donc, voilà, c'est une adaptation qui lui permet quand même de réaliser sa prise alimentaire sans problème, bien qu'elle n'ait pas de dents en haut. Alors, en termes de comportement, quand une vache est en train de manger, je ne sais pas si vous avez bien remarqué, mais une vache qui est dans une pâture, elle mange, elle arrache de l'herbe, et puis une fois qu'elle l'a arrachée, elle va tout de suite l'avaler. Vous n'avez jamais vu, parce que l'herbe, quand même, c'est très dur, ça contient en général des petits cristaux de silice, c'est très abrasif, et donc pour arriver à mâcher de l'herbe, bah, il faut vraiment du temps. Donc, quand une vache mange, vous ne voyez jamais une vache prendre de l'herbe, mâcher pendant 2 minutes, puis prendre de l'herbe, puis mâcher pendant 2 minutes. Elle arrache de l'herbe, elle l'avale, éventuellement elle la mâche une fois ou deux. Puis elle reprend encore de l'herbe, elle la mastique pendant 1 seconde ou deux, puis elle l'avale. Et donc elle mange, c'est phénoménal, mais sans mastiquer, quasiment sans mastiquer. Et donc elle peut manger plusieurs dizaines de kilogrammes d'herbe, comme ça, en l'espace de seulement quelques dizaines de minutes. Donc elle avale des quantités phénoménales, mais elle ne les mâche pas. Du coup, à quoi ça sert de se casser la nénette à faire des molaires et des prémolaires, si c'est pour pas mâcher l'herbe? Eh bien, c'est ce qu'on va voir pour la suite. Donc, prise alimentaire rapide, prise alimentaire massive. Et on verra que la mastication, elle se fait de façon différée. La mastication, elle se fait plus tard, une fois que la vache, elle s'est mise à l'abri. La mastication se fait plus tard, une fois que la vache s'est mise à l'abri, lors d'un processus qu'on appelle la rumination. Alors ça sert à quoi de faire ça en fait, de prendre plein de nourriture mais de pas la mâcher, et ensuite d'aller se mettre ailleurs pour la mâcher. Ouais, mais pour se cacher de qui? Bah, des prédateurs. Alors souvent, on oublie que la vache, bah, dans la nature, bah, elle a des prédateurs. Alors évidemment, quand elle est dans la banlieue de Douai, dans un champ, les prédateurs, il n'y a plus trop. Mais les bovins, enfin les ruminants sauvages, ils ont des prédateurs. Et avant que l'humain n'élève la vache, ou à une époque où il y avait moins d'humains, il y avait des loups et des ours en France. Et bien les loups et les ours, ben, ça bouffait des vaches. Et alors un loup, ça ne mange pas une vache, mais une horde, une meute de 12 loups bien affamés, ça vous bouffe un taureau bien comme il faut. Hein. Donc il ne faut jamais oublier le statut de proie des... Le statut de proie des vaches, mais également de l'ensemble des ruminants, qui font qu'ils sont à la merci des prédateurs. Et en plus, la vache, bah, elle mange de l'herbe, et l'herbe, ça pousse pas dans les forêts. Donc on ne peut pas se cacher dans une pâture, parce qu'on est à l'air libre, on est complètement découvert. Et donc un loup qui est un peu fin, bah, il peut, dans une pâture, il peut voir une vache à des kilomètres. Et donc elle a intérêt à manger très 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 rapidement, et ensuite d'aller se cacher sous un arbre, ou dans une forêt, ou un endroit où elle ne sera pas vue, où là, elle peut tranquillement mastiquer son herbe. Donc ça veut dire que cette rumination, c'est une adaptation, bien sûr au régime végétarien, mais surtout au statut de proie, au fait qu'elle est à la merci des prédateurs lorsqu'elle est à la vue. Donc finalement, c'est une adaptation comportementale, sélectionnée au cours de l'évolution, et qui permet une meilleure survie. En d'autres termes, les ancêtres de tous les bovins, ben, y en avait qui mâchaient sur place et il y en avait qui ne mâchaient pas sur place. Ceux qui mâchaient sur place, ils se sont fait bouffer. Ceux qui ne mâchaient pas sur place, ben, ils ont pu se reproduire, donc ils ont transmis leur caractère à la descendance. C'est la sélection naturelle que vous avez vu et revu au lycée, donc on parlera abondamment tout au long de cette année. C'est bon? Tout va bien? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, si ça va un peu vite, n'hésitez pas aussi. Et voilà. Alors, la vache, on l'a dit, elle possède 4 estomacs. Donc, lorsqu'elle avale son herbe, l'herbe rentre dans la bouche, bien sûr, hein, via l'œsophage, ça va arriver dans le premier estomac. Le premier estomac, c'est la panse. On va voir que c'est en particulier dans la panse que vont jouer tout un tas de choses fort intéressantes. Alors, je vous ai dit que c'était le plus gros estomac de la vache. Alors, c'est même de très loin le plus gros estomac, puisque à lui seul, à elle seule, la panse occupe 70% du volume de tout le tube digestif. C'est même pas 70% des estomacs. C'est le volume, 70% du volume de tout le tube digestif, intestin compris. Donc, c'est monstrueux comme volume. Et vous les évaluez à combien, d'après vous? Ça peut faire quel volume? En litres? Combien?
50.
100. 125 litres en moyenne. Ça, c'est pas du gros bide. Voilà, 125 litres en moyenne. Alors, sur des petites vaches, ça va être 90 litres. Sur des grosses vaches, ça va être 160 litres. Donc, c'est une moyenne, hein, 125 litres. Donc, c'est monstrueux. C'est la panse occupe un volume tellement grand dans la vache que les poumons de la vache, ils sont à peine assez gros pour qu'elle arrive à avoir tout son oxygène. Donc c'est, les poumons sont ridiculement petits par rapport à un mammifère, parce que simplement, il n'y a pas la place, quoi. Tout le vide est occupé par un estomac monstrueux. Si vous dites c'était une vache un jour, ce que je vous souhaite, c'est passionnant. Voilà, on ouvre, et puis il y a un truc énorme. Et puis, il y a l'intestin qui est tout collé sur le côté, il y a le poumon qui est tout collé sur le côté, il y a un tout petit cœur qui arrive à ne pas faire son boulot, mais sinon, la vache, c'est une panse avec quelques trucs autour. Quoi. Voilà. Alors, on va voir ce qui se passe justement pendant la rumination.
Alors, on va avoir besoin de faire un petit schéma de la mâchoire de la vache. Alors, en gros, je vais vous présenter, c'est ça, la mâchoire de la vache vue comme ça. Alors, si je vous le dis, c'est parce que l'avantage, c'est qu'on a cette vache. Donc, si le schéma, vous trouvez qu'il est imitable et que vous n'arrivez pas à le comprendre, venez le voir en vrai. Si vous êtes bon en dessin, c'est très bien. Si vous n'êtes pas bon en dessin, ça va apprendre. Et comme ça, vous pourrez voir vraiment ce à quoi ça correspond en vrai, sachant que là, c'est du 3D, donc nous, on va faire un dessin de dimension de l'autre. Alors, on va représenter du coup la mâchoire de cette vache, vue d'en haut. Alors, vous en faites par séquence USC. Hein. Donc voilà, essayez de le faire le plus symétrique possible entre la boîte et la bouche.